Généralement, face à un diagnostic médical, on s'attend tous à une précision absolue, non?
Ah oui, complètement. Un truc presque mathématique.
Voilà, on se casse le bras, la radio affiche cette ligne blanche bien nette sur l'écran noir, et le médecin pointe le doigt en disant que la fracture est là, à cet endroit précis. C'est catégorique, quoi.
Et c'est hyper rassurant, en fait. Notre cerveau adore quand les choses sont bien visibles, mesurables et surtout rangées dans des petites cases étanches.
Exactement. Le problème, c'est que dès qu'on met un pied dans le domaine de l'analyse des textes anciens et de la théologie, cette belle machine à rayons X, elle tombe complètement en panne. On se retrouve face à un paysage analytique vraiment trouble.
Très trouble, oui. Mais c'est justement cette complexité qui rend la chose fascinante. C'est d'ailleurs au cœur des recherches du docteur Matthieu S. Harmon.
Oui. Dans sa conférence L'usage de la Bible par la Bible, il y démontre un truc fou, c'est que les auteurs de ces textes ne partaient presque jamais d'une page blanche.
C'est ça. Ils n'écrivaient pas en vase clos. Ils ont activement réutilisé, cité et réimaginé les écrits qui les précédaient.
D'accord, décortiquons un peu tout ça. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment et pourquoi il faisait ça. Et la source insiste sur un point crucial, ce phénomène ne commence pas avec le Nouveau Testament. C'est déjà super présent à l'intérieur de l'Ancien Testament lui-même.
C'est le point de départ indispensable, oui. En fait, pour piger cette dynamique, il faut se pencher sur ce que les spécialistes appellent l'exégèse scripturaire.
Un terme un peu barbare pour dire quoi au final?
Derrière ce mot technique, se veut simplement dire que les textes s'interprètent les uns les autres. Les auteurs bibliques ne se voyaient pas comme de simples sténographes qui dictaient des messages divins passivement. La source cite la première épître de Pierre, par exemple.
Oh oui, le passage où il dit que les prophètes enquêtaient sur les révélations passées.
Tout à fait. Ils cherchaient, ils fouillaient les archives, pour ainsi dire. Et les traces de cette recherche sont hyper flagrantes, bien avant l'époque de Jésus.
Tu as un exemple en tête?
Prenons le prophète Ésaïe au chapitre 6. Après une vision impressionnante, il reçoit l'ordre de dire au peuple qu'ils auront, je cite, des yeux pour voir sans percevoir et des oreilles pour entendre sans comprendre.
C'est une phrase très connue, mais elle vient d'ailleurs, c'est ça?
Exactement. Ésaïe réutilise presque mot pour mot le langage du Deutéronome qui a été écrit bien plus tôt. Moïse avertissait le peuple qu'il n'avait pas encore reçu des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre.
C'est un parallèle frappant, oui, mais l'intention derrière n'est pas la même, non.
C'est l'acrésie de l'exégèse, justement. Moïse parlait à une nation naissante face à un avenir incertain. Des siècles plus tard, Ésaïe s'adresse à une nation établie, mais qui est sur le point de s'effondrer.
Ah, donc il prend ce vieux diagnostic d'aveuglement spirituel et il l'applique à sa propre crise géopolitique.
Voilà. C'est une réinterprétation totalement active. Et les auteurs du Nouveau Testament ont repris cette méthode.
Et ils l'ont même amplifié, on dirait.
Donc oui, ils l'ont systématisé. Le docteur Harmon souligne un exemple dingue dans l'épître aux Romains. Paul cite le Deutéronome, la phrase « qui montera au ciel », mais il ne se contente pas de citer sagement.
Il fait quoi alors?
Il coupe la citation en plein milieu et écrit, c'est-à-dire faire descendre Christ. Il greffe son explication directement dans l'emprunt textuel.
Attends, il ajoute son interprétation directement dans la phrase d'origine. Mais c'est hyper gonflé, hein? Aujourd'hui, on crierait à la manipulation, non? Est-ce que, enfin, c'était vu comme un clin d'œil, genre un easter egg pour les fans assidus, ou le but était vraiment différent?
Je comprends la comparaison, mais c'est un peu anachronique de voir ça comme de la manipulation moderne. Dans leur culture, ce n'était ni une fraude, ni un petit clin d'œil esthétique.
C'était quoi alors?
C'était une appropriation théologique assumée. L'auteur affirme avec autorité que le vieux texte trouve son véritable accomplissement maintenant, et il te donne la clé de lecture pour le prouver. Ce n'est jamais du simple copier-coller, tu vois. C'est la construction d'un argument.
Ouais, si c'est une réécriture aussi profonde, ça change complètement la donne pour nous qui lisons ça aujourd'hui.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette pratique forge ce qu'on appelle la théologie biblique.
Par opposition à la théologie systématique.
C'est ça. La systématique, elle trie les concepts par catégorie, genre ce que le texte dit sur Dieu ou l'humanité. Mais la théologie biblique cherche à tracer un fil narratif ininterrompu de la Genèse à l'Apocalypse.
En regardant comment une idée évolue d'un auteur à l'autre.
Exactement. C'est en observant ces réutilisations qu'on voit la trajectoire de l'idée.
Il va nous falloir un exemple bien concret pour visualiser ça.
Alors, prenons le contraste entre le Lévitique et la première épître de Pierre. Le Lévitique, c'est dense, des lois strictes sur les sacrifices d'animaux, la pureté, tout ça.
Et bon, on sait tous qu'aujourd'hui, on ne va pas égorger un bélier dans notre jardin. ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le voisinage au passage.
Oui, clairement. Mais blague à part, pourquoi on ne le fait plus? Parce que le Nouveau Testament dicte ces discontinuités.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au juste? Je veux dire, si on considère tout ça comme une source inspirée unique, pourquoi imposer des règles pour ensuite dire « Ah non, laissez tomber ». Ça donne l'impression d'un système inutilement compliqué.
Contexte sociologique. Le Lévitique a été donné à une tribu nomade à l'âge du bronze. Ils devaient survivre au milieu de cultures très différentes.
Ils avaient besoin de frontières physiques super rigides, du coup.
Voilà. Mais tu avances jusqu'au 1er siècle, à l'époque de Pierre. Le public a changé. C'est une minorité dispersée qui subit des persécutions dans l'Empire romain. Revenir au sacrifice d'animaux, ce serait un non-sens total.
Donc Pierre explique que c'est obsolète.
Oui, mais c'est là que c'est brillant. Il cite quand même le Lévitique, le fameux « Soyez saints car je suis saint ». Il prend la vieille loi, en détache le rituel physique et garde l'essence morale.
Ah, il adapte la séparation physique de l'ancien Israël en résilience morale pour son époque.
Tout à fait. Il montre les continuités claires pour la vie moderne, malgré les apparences.
Ce qui prouve à quel point ces règles internes d'interprétation sont capitales. Si on ne capte pas comment Pierre réinterprète ça, on s'expose à appliquer des vieux trucs obsolètes ou à rejeter des principes éthiques hyper importants.
C'est un vrai terrain miné.
Ça explique pourquoi les débats entre spécialistes sont si intenses. Mais concrètement, c'est quoi les plus gros obstacles techniques pour analyser tout ce réseau de citations ?
Le document en liste plusieurs, et le premier est super insidieux, ce sont nos propres présupposés.
Genre, on trouve ce qu'on veut bien chercher.
Exactement. Prends les miracles dans les évangiles. Si tu abordes le texte en étant convaincu que le surnaturel n'existe pas, tu vas trouver une explication politique ou allégorique. Si tu y crois, tu prends le texte au premier degré.
Le fameux biais de confirmation. Et au niveau purement historique, il y a d'autres embûches ?
Ah oui, le cauchemar de la chronologie. Pour savoir qui cite qui, il faut savoir qui a écrit en premier.
Ça paraît logique.
Sauf que pour des livres comme le prophète Joël, les experts se battent encore. Est-ce qu'il a écrit avant l'exil à Babylone ou bien après le retour?
Et ça bloque tout, j'imagine.
Bah oui. S'il y a des ressemblances entre Joël et Ésaïe, si Joël est pré-exilique, c'est Ésaïe qui le cite. S'il est post-exilique, c'est Joël qui compile Ésaïe en regardant le passé.
C'est le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Et j'imagine qu'avec les langues, ça doit être pire. L'hébreu de base, puis le grec.
C'est le troisième gros obstacle. Le chaos des langues. L'Ancien Testament est en hébreu, mais quand le Nouveau est rédigé en grec, les textes anciens avaient déjà été traduits dans cette langue, ce qu'on appelle la Septante.
Et la traduction, c'est jamais parfait?
Surtout qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de traduire. C'est exactement comme le doublage de nos films modernes.
Ah oui, j'ai bien. Avec les studios qui font du mot à mot et ceux qui adaptent librement.
C'est ça. Certains traducteurs antiques faisaient du mot à mot très rigide. D'autres étaient super dynamiques et se concentraient sur le sens.
Donc un chercheur qui essaie de prouver que l'auteur A cite l'auteur B, mais que la traduction grecque a déjà modifié les mots hébreux d'origine. C'est comme retrouver la réplique exacte d'un film anglais en analysant un sous-titrage français basé sur un doublage québécois.
C'est une super analogie. Et ça s'aggrave avec les scribes ultérieurs.
Les scribes, ils ont fait quoi?
Imagine un copiste du 4e siècle. Il recopie Matthieu et tombe sur une citation d'Ésaïe. Mais il remarque que ça ne colle pas parfaitement avec le rouleau d'Ésaïe qu'il a sous la main.
Oh non, me dis pas qu'il...
Si. En croyant bien faire, il corrige l'évangile de Matthieu pour que ça corresponde au mot près.
Il efface volontairement la nuance que Matthieu avait peut-être insérée exprès...
Voilà. Retrouver les vrais mots sous ces couches de correction, ça relève vraiment de la critique textuelle pointue. C'est un vrai labyrinthe.
Face à un tel bazar chronologique et linguistique, on ne peut pas avancer à l'aveuglette. Il faut des règles strictes.
C'est tout l'enjeu du cadre d'analyse de Harmon et Snicker. Ils parlent des choix herméneutiques.
C'est là qu'ils opposent l'étude isolée à l'étude connectée, non?
Oui. Plutôt que de séparer hermétiquement l'Ancien et le Nouveau Testament, comme on le faisait souvent, ils plaident pour une approche connectée. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont rien inventé. Ils ont suivi les traces de leurs prédécesseurs.
Ils parlent aussi d'un spectre des allusions, je crois.
Ça va de la citation hyper claire, genre « il est écrit », jusqu'à l'allusion et même aux échos faibles, où il n'y a qu'un seul mot partagé.
Et dans tout ça, il y a ce concept au nom barbare, l'exégèse prosopologique.
Oui, le mot fait peur, mais le principe est génial. Proposos, en grec, ça veut dire visage.
Donc, c'est changer de visage.
C'est prendre les mots d'un auteur ancien et les placer dans la bouche d'un nouveau locuteur. L'exemple parfait est dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur cite le psaume 102.
Qui dit quoi à la base?
À la base, c'est un humain affligé qui dit à Dieu « Toi, Seigneur, tu as fondé la terre ».
C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Il change qui parle, n'est-ce pas?
Exactement. Dans Hébreu, ces mots sont soudainement attribués à Dieu le Père, qui s'adresse à Jésus, le Fils.
Waouh, le texte est le même, mais la portée théologique est complètement inversée. C'est d'une audace folle. Par contre, j'ai quand même une grosse critique sur leur méthode, surtout sur ce qu'ils appellent les échos faibles.
Je t'écoute.
Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans la pareidolie académique totale?
La pareidolie, le fait de voir des formes qui n'existent pas.
Oui, comme voir un visage dans un nuage. Si deux textes parlent de planter une vigne ou de justice, ce sont juste des thèmes humains universels. N'y a-t-il pas un risque immense de voir des connexions hyper complexes, là où c'est juste une simple coïncidence?
C'est une critique redoutable et ça divise les spécialistes. La frontière entre une vraie allusion et une coïncidence est mince.
Alors comment ils gèrent ça?
Avec des statistiques de vocabulaire, certains chercheurs, oui, sont très prudents et exigent un pourcentage strict de mots en commun. Mais Harmon, lui, plaide pour une approche plus globale.
Cela soulève une question importante pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que cette étude est réservée aux mecs en blouse blanche qui lisent le grec ancien? Ou on a des outils pour nous aussi?
Heureusement non, pas besoin d'être un expert. Il faut juste repérer la mécanique de base. Un texte donneur qui fournit les mots, un texte récepteur qui les emprunte et le résultat exégétique.
Et pour les repérer, on fait comment?
On suit les références croisées dans nos Bibles modernes. Et on s'entraîne à distinguer un simple parallèle conceptuel d'une vraie allusion intentionnelle. L'auteur recommande d'ailleurs un outil super pratique basé sur la traduction CSB, le Connecting Scripture New Testament.
Oui, celui avec le code couleur?
Vert pour les allusions, bleu pour les citations, avec des petites notes explicatives. Et surtout, un index inversé de l'Ancien Testament.
Genre, je cherche Genèse chapitre 44 et je vois direct tous les textes plus récents qu'il utilise.
Exactement, c'est immédiat.
C'est génial.
Ça me fait penser au conseil du documentaire. Lire à la fois en profondeur et largement. C'est un peu comme regarder une peinture pointilliste.
L'analogie me plaît. Tu développes?
Si tu t'approches trop, la lecture en profondeur, tu ne vois que des points de couleur chaotiques. Tu perds le sens.
Et si tu recules trop?
Tu vois le grand dessin, la lecture large, mais tu rates totalement le génie de la technique du peintre, ses petites allusions subtiles. Il faut vraiment alterner les deux vues. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est en maîtrisant cette double lecture que les textes cessent d'être de vieux parchemins poussiéreux. Ça devient une conversation intergénérationnelle fascinante, sur des siècles.
Et ça nous amène à une réflexion finale assez provocatrice. On vient de voir que ces auteurs anciens empruntaient, modifiaient et réattribuaient librement les mots des autres, sans aucun guillemet ni norme de citation moderne.
Oui, ils assumaient totalement l'emprunt. L'idée de plagiat n'existait pas de la même manière.
Voilà. Et si cette immense sagesse a pu se construire grâce à cette espèce d'hyperlien constant, ça ne remet pas en question notre obsession moderne pour le droit d'auteur et l'originalité pure?
C'est vrai qu'on a tendance à mythifier le créateur isolé devant sa page blanche.
Alors que la véritable création intellectuelle, c'est peut-être toujours, au fond, un immense dialogue avec le passé. C'est quelque chose à méditer. Merci d'avoir plongé dans cette analyse avec nous aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.